L'athéisme est aristocratique. L'idée d'un grand être qui veille sur l'innocence opprimée et qui punit le crime triomphant est toute populaire. Le peuple, les malheureux m'applaudissent. Si je trouvais des censeurs, ce serait parmi les riches et parmi les coupables. Discours de Robespierre, le 21 novembre 1793.
Les fenêtres de l'histoire avec Philippe Faureau.
Maximilien Robespierre est indéniablement un des personnages les plus connus, controversés, discutés, voire admirés de la Révolution française. Nous vous proposons aujourd'hui de comprendre quel contexte et quelle situation ont permis sa chute en juillet 1794. Natif d'Arras en 1758, avocat de métier, Maximilien Robespierre est élu aux États généraux du royaume en 1789 et il va être un des acteurs, mais pas encore trop connu, de cette assemblée nationale qui est héritée des États généraux. En 1791, il ne peut se représenter à la législative. Et il ne retrouve un siège de député qu'aux élections de la Convention en septembre 1793. À partir de l'automne 1793, il va être membre du comité de salut public et sans doute un des personnages qui va animer celui-ci de manière extrêmement importante, au point que Robespierre a pu même apparaître comme la personnalité dominante du comité et que ses adversaires vont même parler d'une dictature de Robespierre. D'abord, comment le présenter sur le plan de sa psychologie et de son physique ? Sa mise est indéniablement soignée et d'ailleurs contraste beaucoup avec le débraillé de certains sans-culottes. Les partisans d'Hébert, ce qu'on appelle les enragés, l'appelle de manière sarcastique « monsieur ». C'est un démocrate sincère, patriote rigide. Il a indéniablement une foi républicaine, parfois mystique. Mais de ce point de vue-là, il a pu attirer effectivement les attentions des personnes qui souhaitaient une incarnation de la Révolution et il a pu également attirer l'estime d'une partie du peuple parisien qui le voyait assez régulièrement aux affaires. De plus, il a voulu incarner indéniablement un gouvernement efficace dans une période extrêmement troublée, puisque au moment où il arrive aux affaires, il y a la guerre en Vendée qui crée une situation de conflit civil en France même, il y a la guerre contre les puissances étrangères, la guerre ayant été déclarée en avril 1792 contre l'Empire d'Autriche, mais qui a vu s'agréger à l'Autriche l'alliance prussienne, puis au début de 1793, l'alliance britannique, espagnole, sarde. Qui plus est, il y a aussi une situation économique difficile qui pose des problèmes de ravitaillement sur toute l'étendue du territoire français. Donc il va y avoir effectivement une mise en organisation d'un pouvoir fort représenté par le comité, mais qui doit tout de même gérer une relation complexe avec l'Assemblée de la Convention. Le risque politique est de placer justement l'autorité révolutionnaire, l'autorité du comité, au-dessus des garanties constitutionnelles et de l'existence de l'Assemblée. Comment le comité de salut public exerce-t-il le pouvoir par rapport à la Convention? Comment le comité maîtrisera-t-il aussi les sans-culottes dont il est régulièrement sous la pression? Aux yeux de Robespierre, eh bien, la difficulté sera résolue par le règne de la vertu. Il faut entendre par là une probité sans faille, le souci perpétuel de n'exiger que ce que le salut public nécessite. La rigueur dans la détermination et l'exécution une fois les mesures correctement délibérées. Il n'est pas sûr d'ailleurs que Robespierre ni les autres membres du comité de salut public, bien qu'attentifs aux circonstances, soient parvenu à surmonter le risque évident d'un trop-plein de pouvoir dans les mains du comité. Alors, la dictature de Robespierre a été placée dans un contexte extrêmement difficile. Premier point, c'est qu'il y a eu une centralisation à outrance. Les ministres sont remplacés par des commissions exécutives et les représentants en mission sont envoyés dans les départements pour veiller aux exécutions des décisions du gouvernement et également au maintien de l'ordre, alors qu'une partie du territoire échappe véritablement au contrôle de Paris, pas seulement d'ailleurs à l'ouest avec les guerres de Vendée, mais également dans les départements fédéralistes, comme par exemple la région normande, la région de Toulon ou celle de Lyon. Ensuite, il y a la question de la Grande Terreur. On a utilisé cette expression avec effectivement l'idée que s'était imposée par le haut une terreur généralisée pour vaincre les adversaires de la Révolution. Les choses sont sans doute beaucoup plus complexes. C'est-à-dire que la Grande Terreur a pu partir également de la base. Bien souvent, ce sont dans les départements que les commissaires en mission prenaient des initiatives que Paris, d'ailleurs, ne rattrapait qu'avec plus ou moins de difficultés. Ensuite, il est vrai qu'en juin 1794 est adoptée la loi du 22 Prairial qui établit effectivement des listes de suspects, qui supprime l'interrogatoire, qui écarte des témoins et des avocats. Et c'est vrai que ces semaines de juin et juillet 1794 sont relativement impressionnantes par le rythme des exécutions. Autre élément de la période robespierriste, c'est l'idée d'un culte de l'être suprême. En effet, Robespierre supporte mal que on nie l'existence d'un être suprême. Maximilien Robespierre, effectivement, n'est pas athée. Il est plutôt déiste. Et il estime d'ailleurs que l'athéisme est finalement une espèce de vertu mal comprise de l'aristocratie et des élites. Il organise finalement, suite au décret du 7 mai 1794, l'existence d'un dieu et la proclamation de l'immortalité de l'âme. Le 8 juin, au jardin des Tuileries, Robespierre met le feu à une statue de l'athéisme, puis il conduit une procession dans le Champ de Mars aux accents d'un hymne mis en musique par Gossec. Enfin, autre élément capital du contexte, ce sont les affaires militaires. La guerre existe donc entre la France et une grande partie de l'Europe à partir d'avril 1792 et du début de l'année 93, et les questions militaires pèsent lourd sur les décisions gouvernementales. La situation militaire est extrêmement délicate au moment où Robespierre arrive au pouvoir. Néanmoins, au printemps 1794, la situation s'améliore. Moreau est vainqueur à Tourcoing au mois de mai, et le 26 juin, Jourdan réussit à vaincre les Autrichiens à la victoire de Fleurus. Quelques jours plus tard, Anvers, Bruxelles et Liège tombe en peu de jours. À la suite de ces victoires, nombre de personnes de l'élite révolutionnaire estiment peut-être que le temps d'une certaine détente politique est advenu. Et il est vrai que, au sein même du comité, des personnalités critiquent de plus en plus Robespierre. Mais ce qu'il faut bien comprendre aussi dans ce qui va advenir en ce mois de juillet 1794, c'est que certains vont avoir de toute manière tendance, pour leur intérêt, à noircir Robespierre lui-même. En effet, celui-ci a beaucoup d'adversaires. Il y a d'abord, par exemple, quelqu'un comme Vadier, qui, lui-même athée, ne pardonne pas à Robespierre le culte de l'être suprême. Billaud-Varenne et Collot d'Herbois n'aiment pas la grande popularité auprès d'une partie de la population parisienne. Carnot supporte mal ce qu'il appelle le despotisme de Robespierre, ainsi que celui de Saint-Just, ami de celui-ci. Tallien, Barras, Fouché, faisant preuve d'ailleurs de grande hypocrisie, redoutent que Robespierre se retourne contre eux parce que, dans les départements où ils ont été envoyés en mission, ces trois personnages ont fait couler beaucoup de sang. Et donc, ils ont intérêt à la chute de Robespierre pour lui faire d'autant plus porter la responsabilité de la terreur dont ils ont été eux-mêmes de grands acteurs. Donc, à la suite d'un discours à la Convention, où Robespierre semble avoir mis maladroitement en cause des élus pour corruption, une majorité des élus de la Convention vote une motion de défiance et de destitution de Robespierre. La nuit donc du 27 juillet, celui-ci trouve refuge à l'hôtel de ville de Paris, mais manquant de soutien évident, il va finalement être arrêté. Peut-être même qu'il a tenté de se suicider et qu'il est blessé d'ailleurs sévèrement à la mâchoire. Il va être donc rapidement jugé avec certains de ses principaux soutiens, dont Saint-Just, mais également Couthon, Lebas et son jeune frère. Ils vont être exécutés, place de l'actuelle Concorde, place de la Révolution, et beaucoup de survivants vont avoir une très belle carrière. Et il est vrai que les Talliens, les Barras, les Fouché continueront pendant des années à noircir Robespierre pour faire oublier leur propre rôle.